enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Voilà ce dont nous parlerons. J'ai commencé à prier tout à l'heure, vous savez, en chassant l'esprit de pauvreté, chassant l'esprit de messesse, ça veut dire ces esprits impurs qui font échouer les enfants de Dieu dans beaucoup de choses qu'ils touchent ou qu'ils entreprennent. Tu vois, ce mois ne passera pas que ces esprits maléfiques-là aient dégagé entièrement ta vie si quelqu'un se sent fatigué par ces jugements. Vous savez, Dieu va faire des choses pendant ce mois. Quelque chose vraiment de puissant, de très fort va se passer au milieu de nous. Soyons simplement disposés. Ayons le cœur disposé parce que nous allons ouvrir la troisième porte. Dis à ton voisin la troisième porte. La troisième porte. Non, dis-le avec vie. La troisième porte. La troisième porte. Alléluia. Alors, de quoi nous parlons? Vous avez dû constater, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui nous prennent en cours, la série d'enseignements dans laquelle nous suivons, juste pour résumer. En fin d'année 2006, le Seigneur m'a ouvert mes yeux pour comprendre quelque chose que nous savons tous. Dieu m'a parlé de la bénédiction. Et le Seigneur me fait comprendre que nous avons souvent cru que la bénédiction était un paquet. J'ai un paquet, ça veut dire en fait un genre de paquet qui englobe toutes les faveurs possibles. Donc la bénédiction a plusieurs noms. Alléluia. Ou bien a plusieurs thèmes, a plusieurs centres d'action. Alléluia. C'est une bénédiction que de se marier et d'avoir des enfants. Quelqu'un peut voir cette faveur-là se manifester dans sa vie. Tu es marié, tu as des enfants. Mais c'est parce que tu es marié avec des enfants que, sur le plan financier matériel, vous serez équilibré. Tu béniras l'Éternel en disant, je rends grâce à Dieu, il m'a donné un mari, il m'a donné des enfants. Mais peut-être que ton mari, ou bien toi-même, vous pouvez être confronté à des problèmes de chômage qui font qu'il vous est très difficile, comme on dit souvent, de joindre les deux bouts. Amen. Vous avez connu la bénédiction du mariage. Vous avez été béni en ayant des enfants, mais vous ne connaissez pas la bénédiction parce que vous n'arrivez pas à manger à votre faim et vous ne savez même pas comment vos enfants mangeront à midi, mangeront demain. Donc vous êtes béni du mariage, mais vous n'êtes pas béni sur le plan alimentaire. Alléluia. C'est un, parce que la Bible dit, je te bénis, sois fécond. C'est une faveur de Dieu d'avoir un mari. C'est une faveur de Dieu d'avoir un enfant. Mais elle n'est pas complète. Alléluia. Il y a encore beaucoup d'autres sortes de bénédictions que décrit la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 3, voilà ce que dit le Seigneur. Il dit, voici toutes les bénédictions, n'est-ce pas, qui viendront sur toi lorsque tu obéiras à la parole de l'Éternel ton Dieu. Voilà toutes les bénédictions. Ce verset est en train de dire autrement que, c'est toute la, c'est au pluriel, donc, voilà toutes les bénédictions, parce qu'il y en a plusieurs. Tu peux avoir une bénédiction, et parce que tu n'as pas les autres, ta bénédiction n'est pas parfaite. Amen. Et ta joie n'est pas parfaite. Jésus a dit de marcher dans sa parole, de s'attendre à lui, afin que notre joie soit parfaite. On peut être dans la joie, mais la joie peut ne pas être parfaite. Amen. Donc, la Bible nous décrit dans ce Deutéronome 28, où Dieu donne cette phrase, il dit voici toutes les bénédictions. Le mot tout dit, voilà l'entièreté des choses que vous allez recevoir si vous vous attachez à ma parole, si vous marchez selon ma parole. Et dans ce même passage de Deutéronome 28, Dieu va citer 12 bénédictions, 12 faveurs qui doivent se manifester dans ta vie. Alléluia. Chacune de ces faveurs s'obtient au travers de la parole de Dieu d'une façon différente. Il y a un acte que tu poses dans ta vie qui va ouvrir pour toi une de ces faveurs. Il y a aussi une attitude que tu vas avoir qui va fermer pour toi une de ces faveurs. Dieu veut que tu sois béni. Mais que tu sois béni, comme disait l'apôtre King, que tu sois béni comment? En bien. Alléluia. Alléluia. Alors cette année, Dieu a décidé de nous bénir en bien. Dieu a décidé de nous bénir en bien. Dieu a décidé de nous combler de joie. Dieu a décidé que nous ayons le repos de tous côtés. Dieu a décidé que nos vies soient remplies de sa paix, de la tranquillité. Pas simplement que tu aies la bénédiction de cette porte-là qui dit que Dieu va bénir ta vie spirituelle où tu seras un peuple saint. Amen. Pendant que tu as une bonne intimité avec Dieu, pendant que tu as une bonne communion avec le Saint-Esprit, tu n'arrives peut-être pas à manger, tu ne connais pas la deuxième bénédiction qui dit « Je bénirai tes entrailles », n'est-ce pas? Tu vas devenir fécond, tu vas être productif, ainsi de suite. Tu ne connais pas ces choses. Alléluia. Cette année, Dieu veut te bénir en vie. Deutéronome 28, 6, cite 12 bénédictions. Avant, j'ai étudié la parole de Dieu et je me suis rendu compte de ceci. C'est que la Bible est un livre. Ça, c'est la révélation que j'ai eue.
La Bible est un livre. Dis à ton voisin, la Bible, là, c'est un livre.
La Bible est un livre vrai.
Alléluia.
C'est un livre qui a beaucoup de pages. Vous savez, lorsque je suis en train de... quelquefois, lorsqu'on a abordé ces thèmes, il y a ceux qui disent, oh, mais nous, il faut nous parler, on veut... Il y en a qui vont être là, on veut connaître le Christ. Donc, en fait, dans la prédication, vous savez, parce que sur le dimanche, on parle, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il y en a qui disent, non, il faut qu'on s'apprenne à prier. Donc, il veut qu'on apprenne la vie des prières. Il faut prier.
C'est vrai.
Mais si la Bible devait se résumer à toutes ces choses, ça ne serait pas un livre, ça serait une brochure.
Amen.
Donc j'ai la révélation que la Bible est un livre. Un livre dans lequel il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et le Seigneur dit à la fin de ce livre qu'il ne faut rien ajouter. Il ne faut rien retrancher. J'ai aussi la révélation de comprendre que on peut dire je crois en toute la Bible, mais retrancher des passages. Par son attitude, par sa façon de vivre. En disant, certains versets ne sont pas importants. Alléluia. Que le plus important, c'est ceci. On dit le plus important, c'est tel verset, le plus important, c'est tel passage. Je prêche beaucoup l'amour. On m'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de toute ta force. La Bible dit que toute la loi est inclue dans ces versets. Mais c'est vrai que toute la loi est inclue dans ces deux passages. C'est vrai. Mais toute la loi qui est inclue, est-ce que tu la connais?
Alléluia.
Toute la loi est dans le verset. Mais est-ce que tu la connais? Amen. Si c'est simplement que le dit tout, comment dirais-je, tu aimeras l'éternel ton Dieu, ce qui est le premier commandement le plus important, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui inclut toute la loi, alors tu avais écrit deux versets. Juste deux versets. Mais si le Seigneur a mis ces choses par écrit pour nous, c'est parce que cela fait partie de la révélation du Christ. La Bible dit que Christ est la parole. Donc, avoir chacun des versets de la parole de Dieu dans notre vie, c'est avoir Christ en nous. Amen. Alléluia. Et Jésus apporte beaucoup de sujets. La parole de Dieu apporte beaucoup de sujets. Apporte des sujets pour la vie pratique, de la vie courante, de l'attitude que nous devons avoir. Amen. Alors ce que j'ai compris, c'est que les chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu n'avaient pas de succès, n'ouvraient pas les 12 portes de bénédiction dans leur vie. N'ouvraient pas ces 12 portes parce qu'il y a des passages dans la parole de Dieu qu'ils méprisent, qu'ils négligent ou qu'ils ont retranché. Amen. Alléluia. Oh, la Bible dit, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. C'est si Jésus compris cette révélation. J'ai compris que le verset ne voulait pas dire tu vas en enfer. Pas forcément dire que tu vas en enfer. C'est-à-dire, tu n'auras pas ta... La vie de Dieu ne pourra pas s'écouler normalement en toi.
Alléluia.
Si tu retranches tes versets, s'il y a des choses que tu ne considères pas, toutes les promesses de Dieu ne pourront pas avoir un effet dans ta vie. Et nous allons étudier tout à l'heure la parole de Dieu. Nous allons voir qu'il y a des hommes de Dieu, malgré leur foi, malgré la crainte de Dieu, qui n'ont pas laissé Dieu se manifester pleinement dans leur vie. Et quand on les regarde, on n'a pas envie de glorifier le Seigneur. Parce que leur vie n'est pas un témoignage de la puissance de Dieu.
Amen.
Alléluia. Regardons par exemple 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 1. Il est dit en 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1, « Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves.
Amen.
Une femme s'approche de l'homme de Dieu qu'on appelle le prophète Élisée. Elle dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et toi-même, tu sais, Élisée étant conscient, tout le monde avait le témoignage dans le village, dans la ville, que le mari de cette femme-là aimait Dieu. Il craignait Dieu. Mais, malgré la crainte qu'il avait de Dieu, il était dans la disette. Au point où les créanciers voulaient venir prendre ses enfants. Alléluia. La Bible dit ceci, qu'un homme de bien laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Comment quelqu'un qui craint Dieu, dont tout le village peut rendre témoignage qu'il craint Dieu, laisse comme une malédiction à ses enfants? Ou des créanciers entrent dans leur maison pour enlever les enfants. Cela veut dire que quelqu'un qui craint Dieu, cela veut dire que malgré la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu, tu peux mourir pauvre.
Alléluia.
Bon, peut-être, tu peux mourir avec des problèmes. La Bible dit que quand quelqu'un marche avec l'Éternel, Dieu le bénit sur plusieurs générations. Cet homme ne craint-il pas Dieu? Élisée, le grand prophète qui avait un puissant don de discernement,
ne savait-il pas que son mari la craignait Dieu?
Tout le monde avait le témoignage qu'il craignait Dieu.
Il y a des passages dans la parole de Dieu, si vous ne comprenez pas, vous savez, il ne faut pas les lire. C'est, la Bible est un tout. Je dis, c'est un livre.
Amen. Amen.
David dit, je suis né, j'ai vieilli, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je veux dire, il n'y a pas David.
Et homme de Dieu, ce que je dis, c'est une révélation. Hein. Moi, j'ai vu des gens mendier leur pain. J'ai vu des chrétiens mendier leur pain. Vous n'avez jamais vu ça?
La question donc à se poser, est-ce que ce verset de David est faux? Ou ce sont les enfants, ceux qui sont chrétiens mais qui prient Dieu, qui ne sont pas encore justes?
Est-ce que vous me suivez?
Le juste ne mendie pas son père. Ce que David dit est vrai, c'est la parole de Dieu.
Mais le chrétien peut mendier son père. Le prieur peut mendier son père.
Celui qui vient à l'église le dimanche peut arriver dans une situation où il mendie son père. Amen. Mais lorsque vous êtes dans une situation où vous mendiez votre pain, où la vie est extrêmement compliquée pour vous, où vous n'avez pas l'équilibre financier normal, votre vie devient un problème même pour le royaume de Dieu. Parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Vous-même, vous avez envie de murmurer contre Dieu. Un homme de Dieu aussi l'a dit dans le livre de Proverbes chapitre 30. Ouvrons-le dans le livre de Proverbes chapitre 30.
Versets 8 à 9.
Il dit... Éloigne de moi la fausseté et les paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et me dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu.
Alléluia.
Il dit, faut pas que je sois misérable. Parce que je suis trop pauvre. Je vais voler et je vais m'attaquer à ton nom. J'ai vu beaucoup de frères à cause de l'oppression financière, sont retrouvés en train de mentir, quelquefois de voler, en train de retrouver. Et j'ai compris que cela n'était pas la volonté de Dieu. Pourtant, il craignait Dieu, comme ce prophète de 2 Rois chapitre 4.
Alléluia! Alléluia!
C'est pourquoi je dis, il y a 12 bénédictions, frère. Dis à ton voisin, il y a 12 bénédictions. Il y a la bénédiction qui va t'ouvrir la porte, où tu vas craindre l'Éternel. Mais ce n'est pas la même bénédiction dont nous parlons aujourd'hui, qui dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Cette bénédiction, j'ai dit tout à l'heure qu'il y en a 12. Pour accéder à ces 12 bénédictions, je vous ai expliqué la dernière fois, pour ceux qui veulent l'enseignement, pour le prendre, la Bible dit qu'il y a 12 portes. Quand il décrit la Nouvelle Jérusalem dans le livre d'Apocalypse 21, 12, il dit que la Nouvelle Jérusalem, qui est notre promesse éternelle, a 12 portes d'entrée. Deutéronome 28, comptez les bénédictions, il y en a 12.
Alléluia.
Tu peux avoir la bénédiction d'une intimité profonde avec Dieu, d'une vie de prière, être un bon frère en Christ. Mais ça ne veut pas dire que tu as ouvert la porte qui t'ouvre la possibilité, la capacité, la bénédiction qui te fait sortir de la disette. Cette porte-là, qui est la troisième porte, est une porte que beaucoup d'Africains n'ont jamais ouverte.
Alléluia.
Alléluia. Les gens ne l'ouvrent pas. Tu me diras certainement, parce que qu'est-ce que ça signifie ta corbeille et ta huche seront bénies? La corbeille et la huche sont des ustensiles de maison qui recueillent la nourriture. La huche, le pain, et la corbeille, toute forme de nourriture. Quand Dieu dit ta corbeille et ta huche seront bénies, Dieu est en train de dire, amen, que tu ne manqueras pas de nourriture, tu ne manqueras pas de nourriture chez toi à la maison. C'est une faveur, lorsqu'elle se manifeste dans votre vie, elle va jusqu'à 1000 générations. Vos enfants ne manqueront de rien. Tu vois, tu peux avoir des difficultés. Tu peux ne pas t'entendre avec les gens, mais c'est une porte lorsque tu l'as ouverte. Chez toi à la maison, tu auras toujours à manger. Tu comprends, non? Chez toi à la maison, tu auras toujours à manger. Mais cette bénédiction-là n'arrive pas par accident. Il y a une attitude qui la provoque. Il y a un comportement qui la provoque, qui ouvre la faveur. Quand vous n'avez pas cette porte dans votre vie, vous avez des problèmes pour rendre vos crédits, les dettes. Parce que, on peut dire que ta corbeille et ta huche seront bénies quand tu dois à des gens. En réalité, si tu dois à des gens, la nourriture que tu es en train de manger, c'est leur nourriture à eux. Parce que c'est parce qu'ils te donnent du souci que tu es capable de manger ceci. Car si tu as une dette, rien de ce que tu as n'est à toi. Cela appartient à celui à qui tu dois.
Alléluia.
Donc, quand Dieu dit ta corbeille et ta huche seront bénies, c'est une façon de te dire aussi, tu sortiras de l'endettement. Tu ne devras à personne.
Alléluia.
Quand Dieu dit ta corbeille et ta huche seront bénies, ça veut dire qu'il va te mettre dans une situation, n'est-ce pas, pas d'être milliardaire, mais de confort. Ça veut dire de...
Amen. De bien-être, tu es tranquille, quoi.
Amen. En tout cas, pour manger, tu ne te soucies pas. pour payer ta facture d'eau, d'électricité, tu te suicides pas. Ben, toi, c'est la corbeille. Amen. Si ton cœur bat à l'approche de la fin du mois, à cause des factures, comment, tu vois, ta corbeille et ta huche ne sont pas encore bénies. Amen. Alléluia. Si tu ne sais pas comment le mois prochain, les enfants vont manger, et ton cœur est dans la tu es inquiet, c'est que sûrement ta corbeille et ta huche ne sont pas encore bénies. Amen. Il y a des gens même qui ont ouvert cette porte-là sans s'en rendre compte. Par laquelle même c'est la même. Vous pouvez l'ouvrir même comme vous êtes païens. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Alléluia. Ce sont les principes. Tu appliques, ça marche. Tu fais, Dieu te bénit. Ta corbeille et ta huche sont bénis. Tes enfants arrivent, ils sont dans la vie, ils ne font pas exprès. Et puis quand même, ils sont bénis. Ils mangent toujours. Alléluia. Même quand elle est là, il dépose son assiette sur la table, quelqu'un vient taper à la porte. Coco, je passais par là. J'ai envie de venir t'apporter un sac de riz. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ta corbeille et ta huche seront bénis. C'est la troisième bénédiction des 12 bénédictions, des 12 portes de faveur dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Amen. Mais ouvrons Deutéronome 28, ce passage-là. Est-ce que vous savez qu'après les 12 bénédictions, il est cité beaucoup de malédictions? Vous n'avez pas remarqué ça? Les malédictions, c'est trop. Je n'ai pas pris le temps de compter. C'est 12 multiplié par 7. Ah, en tout cas, il y en a beaucoup. Et dans le malédiction, il dit, Deutéronome verset 28, verset 16, il dit, bon, au verset 15 même, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne sors pas et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Ça, c'est pas bon, ça. Alléluia. C'est pas bien. Vous savez, il y a des comportements. Et Dieu explique comment quelqu'un peut agir pour que sa corbeille et sa huile soient maudites. Il y a des actes qu'on pose qui font que ta corbeille et ta huche sont maudites. Tout ce que tu amènes chez toi à la maison part en fumée. Ça disparaît. Tu ne peux même pas épargner un peu. Tu es capable d'avoir de grosses entrées financières, mais tout disparaît. Il y a des personnes qui ont connu que des entrées qui ont été multimillionnaires. Mais en quelques jours, en quelques temps, tout ce qu'ils avaient disparaît. Et ils n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants. Ce sont des gens qui ont leur corbeille, leur huche, maudite. Parce que les principes de Dieu qu'ils n'ont jamais respecté. Mais dis avec moi, mais moi, ma corbeille et ma huche sont bénis. Frère, il faut croire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est une bénédiction qui est très importante. C'est une bénédiction qui est très importante. Parce que quand vous ne l'avez pas, vous finissez, vous pouvez même finir par vous regarder. Le monsieur dit, dans le Proverbe 10, je prie. Il ne faut pas que je sois pauvre. Si je suis pauvre, je risque de dérober. Et si je dérobe, je vais m'attaquer à ton nom. Bon, je suis censé être multimilliardaire. Je veux juste parce que je suis pauvre aussi. Hein? Je risque de me détruire de tes voix. C'est vrai, hein? C'est très vrai. Amen. La corbeille et la huche vous donnent le minimum. Alors, dans le chapitre 28, verset 16, qui dit, ta corbeille est sur mon oui, explique que aussi, comme le verset a commencé au verset 15, en disant, si tu n'appliques pas, si tu ne fais pas telle chose, si tu ne fais pas telle chose. En fait, si tu as une attitude contraire au conseil de la parole de Dieu, tu vas avoir des problèmes dans ta nourriture quotidienne. Vous savez, je ne parle pas des méchants qui mangent et qui vivent par la méchanceté. Je parle de la bénédiction qui vient de l'Éternel. Pas de la bénédiction du monde. Ce que je vais dire, ce ne sont pas des principes qu'on tire dans des livres de stratégie financière, marketing, non. C'est ce que dit la Bible. Je ne prendrai aucun livre à côté. C'est votre même Bible. Je dis, c'est un livre. Alléluia. Ne vous contentez pas de deux ou trois versets. Étudiez-la entièrement et mettez-la entièrement en pratique. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Cet enseignement qui va vous faire sortir du manque. Dans ce même enseignement, donc, les dimanches qui vont suivre, j'aborderai des points tels que sortir de l'endettement,
Amen. Qu'est-ce qu'on appelle possible pour cet endettement? Je parlerai de l'équilibre financier. Amen. L'équilibre financier, où j'aborderai le thème que je citais la dernière fois sur les quatre fleuves. Amen. Et j'expliquais aux gens, je disais dans la dernière fois, vous savez, pour être équilibré sur le plan financier, il faut avoir trois sources de revenus. Il faut quatre. Si tu as une seule, c'est pas bien parti. Amen. Ça veut dire que tu es fonctionnaire, c'est là où on te paye. C'est de ça que tu vis. Tu n'as pas d'autres sources d'entrée, tu es en danger. Il te faut quatre. Quatre. Si tu travailles quelque part, même si tu es bien payé, et que tu n'as pas créé tes trois autres sources, ça c'est une source d'entrée. Mais il faut encore trois autres. Ne sois jamais satisfait d'avoir une seule source d'entrée dans ta vie. Disons non, mon patron, même trop, dans ma boîte ici, on ne peut même pas se passer de moi. Je suis payé 3 millions par mois. Tu ne connais pas la vie, hein? Une source. Le diable va t'attaquer là-dessus jusqu'à la fermer. Quand il a fermé, frère, quelqu'un qui avait 2 millions, 3 millions de salaire par mois. Chez toi, à la maison, il y a l'esprit partout. Même dans les toilettes. Tes enfants mangeaient petit déjeuner, avec dessert, les trois, c'est-à-dire qu'ils vont là, entrer. Plat de résistance. Et puis, y a, dans le dessert, tout ça, les gens mangeaient ça. Tes charges mensuelles étaient terribles. Quand tu n'as pas compris le principe de ta corbeille et ta huche seront bénies. Un matin, on ne sait pas ce qui se passe dans la boîte. Brusquement, subitement, sans avertissement. Ta tête que ton patron aimait, subitement, tu l'énerves. Et que ce n'est pas arrivé avec les chrétiens. Les mêmes chrétiens ont crié, je suis béni, pasteur, je vais avoir un boulot. Et qui sont contentés. Un jour, quelquefois, les âges des gens changent. Mais tu as bâti sur une seule source, croyant que c'est ce qui allait te garder jusqu'à la fin de tes jours. C'est une erreur fatale.
Alléluia! Si tu as compris, attends le Seigneur. C'est une erreur fatale.
Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, la sagesse dit, il faut avoir quatre sources. Quatre. Quand tu as eu la première, quelle est la deuxième? Quand tu as la deuxième, quelle est la troisième? Le pardon par toi, quelle est la quatrième? Et puis maintenant, comment ça s'ouvre? Tu dis, les enfants, nous pensons à Dieu maintenant. Alléluia! Une seule source, tu es un fonctionnaire, tu travailles dans une entreprise, nous croyons pas que tu es arrivé, mon frère. Même si aujourd'hui tu roules dans une belle Mercedes, il faut quatre sources. Quatre. Alors donc, dans les jours qui viennent, dans les dimanches qui viennent, on va apprendre ça. Parce que les quatre sources, le Seigneur va nous montrer comment on les produit, qu'est-ce qu'elles sont. Alléluia. Parce que la Bible, dans les Genèse, il y avait un fleuve qui se divisait en quatre. En fait, c'est quatre sources qui vont sortir de toi. Je vais t'expliquer que ce que je vais t'expliquer, c'est que le talent que Dieu t'a donné peut produire quatre activités différentes.
Alléluia.
Le ministère que Dieu t'a donné ne produit pas une seule œuvre. Un ministère dans ta vie, quelque chose qui est dans ta vie, peut produire quatre autres ministères différents. Et qui seront pour toi des sources de revenus. Et des sources d'entrée. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui se divisait en quatre. Et c'est celui-là qui arrosait le jardin d'Éden. Même si un seul fleuve s'arrêtait, le jardin d'Éden allait rester vert. Dieu est très sage. La sagesse de Dieu, vrai. C'est pourquoi la Bible, c'est un livre. Ce n'est pas deux versets. Ce n'est pas une brochure.
Alléluia!
Il faut tout lire. Tiens, toi, il faut tout lire.
Amen!
Donc, ça aussi, nous verrons cela dans la suite. Comment se donner l'endettement? Comment créer, manifester vos quatre sources de bénédiction et de faveur? Amen! Les quatre sources là, je vais l'aborder, mais il y a un homme de Dieu qui va venir parler de cela, parce que c'est lui qui m'a parlé, qui m'a donné cette révélation. Il a dit ça simplement aux cousins. Amen. Il doit arriver dans le mois d'avril. Donc, on va finir ce thème là, mais dans le mois d'avril, je vais lui aborder sur les quatre sources de bénédiction. Amen. Parce que je sais qu'il a des choses qu'il a comprises là-dedans que moi je n'ai pas encore comprises. Amen. Il vient en avril pour nous bénir. Le passé est venu grâce à nous. Pas à nous, Seigneur.
Alléluia.
Donc lui-même, il va traiter ce côté-là. J'aborderai quelques éléments là-dessus. Mais il va aller beaucoup plus en profondeur avec nous. Amen. Par la grâce de Dieu, il sera là dans le mois d'avril, le mois prochain, pour être une source de bénédiction pour nous. Amen. Si tu es content, faut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, voici un peu comment on va aborder tout notre thème sur ta corbeille, ta vie selon béni. Par contre, aujourd'hui, avant de nous séparer, je vais parler de les attitudes, le premier point qu'il faut savoir, les attitudes qui font que Dieu, qui empêche ta corbeille et ta huche d'être bénie. Amen. Ce n'est pas qu'on n'a jamais profité sur vos vies. Ce n'est pas qu'on n'a jamais parlé des faveurs de Dieu dans votre vie. Mais lorsque la prophétie vient, lorsque la parole de Dieu vient, elle peut trouver un type de cœur, d'attitude, qui n'est pas prêt à laisser la semence de la parole donner son fruit. Amen. Le Seigneur décrit dans le livre de Matthieu, chapitre 13, quatre types de cœur. Dieu dit, amen, qu'un semeur sortit pour semer. Le semeur, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie comme un semeur. Dieu m'envoie. Il me donne ce mandat. Il dit, mon fils, Mohamed, prends des semences dans ta main et va semer. La Bible dit que pendant que le semeur sortait, passait pour semer, une partie de la semence est tombée dans un endroit où il y avait des pierres. Pardon, est tombée sur un chemin. Il dit, les oiseaux du ciel sont venus et ont enlevé cette graine-là. Elle n'a donc pas porté du fruit. Et Jésus m'a interprété cela plus tard en disant que les terres représentent le cœur des hommes. Leur façon de recevoir la parole de Dieu. Tu vois, quels que soient les principes et la profondeur d'un message, si ton cœur est comme un chemin, quand tu sortiras de ce lieu, le diable va enlever ce que tu as reçu. La bénédiction est une parole. Parce que bénédiction, hein, ça veut dire un mot qui dit de belles choses, dit de bonnes choses dans la vie d'une personne. Dieu va prononcer des paroles dans ta vie. Mais si ton cœur est comme un chemin, la semence ne va pas prendre. Si ton cœur est comme une terre rocailleuse, la semence ne va pas prendre. Si ton cœur a plein d'épines qui symbolisent les soucis, les inquiétudes de la vie, la semence ne donnerait pas son fruit. Alléluia. Alléluia. Alors, mais si ton cœur est une bonne terre, alors elle va donner son fruit. Amen. Il y a des types de terre, de cœur, qui rejettent les bénédictions. Eux-mêmes, ils attendent, ils ont soif, ils veulent, mais ils ne savent pas qu'ils ont des attitudes, qu'ils ont des comportements qui empêchent la parole de Dieu d'avoir un impact, d'avoir une influence dans leur vie. Ils ne le savent pas. Ils n'en sont pas conscients. Abordons donc les éléments qui peuvent empêcher Dieu de vous faire sortir du manque, de vous faire sortir, qui vont empêcher Dieu de vous faire sortir de la pauvreté, qui vont empêcher Dieu, n'est-ce pas, d'agir dans votre vie, et les choses qui peuvent être dans votre cœur et qui empêcheront Dieu de manifester sa faveur dans votre vie, ou d'ouvrir la troisième porte en vous. C'est ce que nous dirons aujourd'hui, juste pour préparer nos cœurs. Et le dimanche qui vient, amen, nous allons commencer à entrer dans le détail, n'est-ce pas, pour avoir cette clé-là qui ouvre la troisième porte. Alléluia. Alors, vous savez, ces choses-là, je les ai appelées les amis de la pauvreté. Dis-moi, les amis de la pauvreté. Ce sont des attitudes, lorsqu'elles sont en toi, elles attirent systématiquement la pauvreté. Dieu dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 15, et c'est surtout dans le livre de Proverbes qu'on trouve ces conseils de Dieu, le Seigneur nous montre les attitudes qui empêchent la parole de Dieu de porter du fruit. Oh, non. Avant de lire Proverbes 9, 15, je vais lire l'autre passage d'abord, excusez-moi. La première attitude que je vais citer, c'est ce que j'appelle ce matin, l'esprit de censure. Dis avec moi, l'esprit de censure. Vous connaissez la censure, non? Amen. On dit un censure, bien censure. Voilà, l'esprit, une censure. Amen. Donc, l'esprit de censure. C'est un esprit qui entraîne vraiment la misère et la pauvreté. Et qui est très souvent une des bases de la pauvreté chronique de l'Afrique. Et de beaucoup de personnes. Vous connaissez la censure, non? Qu'est-ce qu'elle fait? Dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 15, voilà ce que Dieu dit. Il dit, la censure a deux filles. Donne, et puis donne.
La censure, elle a deux enfants, c'est des filles. Donne. Donne. Alléluia. La mentalité de la censure, qui est la première cause de la mentalité de la pauvreté dans ta vie, c'est quelqu'un qui a une mentalité de recevoir seulement sans vouloir donner. Il y a des gens, vous savez, on veut dire ta corbeille, ta vie, mais ils ont un problème. Parce que eux, dans leur vie, ils ne savent pas donner aux gens. Ce qu'ils savent faire, c'est de recevoir. Quand tu leur demandes de donner, ils vont t'expliquer que tu sais, c'est dur pour moi. Il y a mes enfants qui n'ont pas encore mangé. J'ai tel problème par-ci. C'est eux qui ont toujours tous les problèmes, comme si les autres n'en avaient pas. Ça, c'est la mentalité de la censure. Donne. Donne. La mentalité de la censure maintient dans la pauvreté. On n'a qu'à beau crier dans la vie. Ainsi par l'Éternel, ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Quand tu vas sortir, si tu rencontres les gens, frère, donne. 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 La parole là n'aura pas d'effet. La Bible déclare ceci, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est par contre cet esprit de la censure que l'Afrique reste en arrière. Parce que constamment, il faut regarder les pays occidentaux pour dire donnez-nous. On fait pitié, oh. Donnez-nous. Celui qui fait pitié restera toujours dans la pitié. Jamais il ne s'en sort. Jamais il ne s'en sort. On est là, on dit donnez-nous. Mais les gens donnent. Et ça ne produit rien. Il y a des individus qui viennent. Quand la gens arrive, eux-mêmes ils mangent. Mais regardez comment. Et puis aussi ils finissent mal. Tu sais même. Ils ont bouffé les milliards, mais c'est même pas ce qu'on fait avec ça. Aujourd'hui, ils ont tous les problèmes du monde. Parce que c'est la mentalité de la censure. La censure ne finit pas de dire donne. Elle a deux filles seulement. Donne. Donne. Donc même quand ils ont fini de manger les milliards, ils arrivent encore. Donne. Alléluia. Dis à ton voisin, sois délivré, mon frère. Sois délivré. Vous devez vaincre l'esprit de la censure. L'esprit de la censure va se. On va parler la semaine prochaine. Vous devez la vaincre. Par un esprit de libéralité. Même si vous n'avez pas grand-chose, apprenez à adorer. Même si vous n'avez rien, apprenez à adorer. Quand on parle, une fois je me souviens, le président avait fait un acte qui m'avait touché. Le pays, la Côte d'Ivoire, était avant juste avant la crise. L'Angola a connu une grande calamité. Et la Côte d'Ivoire, pour la première fois, un pays en Afrique. Nous, la Côte d'Ivoire, c'est pour faire des dons humanitaires à l'Angola. Officiellement, comme les pays développés le font. Je dis ça, c'est la bonne attitude. Les gens se sont dit, mais pourquoi il fait ça? Nous, il y a des pauvres chez nous ici aussi. Hein? Les riches qui sont ouverts là-bas, là. Ils n'ont pas de problème ici. Tu vois, l'esprit là ne peut jamais t'amener à sortir de la pauvreté. Faut donner, frère, même si tu n'en as pas beaucoup, parce que tu ne recevras jamais. Si tu donnes, tout ce qu'on mettra dans ta main va disparaître. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la censure. Même si un homme, une personne vient te donner 10 millions, ça va partir. Dans la vie, il faut apprendre à semer. Alléluia! Il y en a qui font jamais des offrandes. Quand le parent est passé, c'est eux, toujours. Quand le parent passe, ils se lèvent leurs mains. Frère, même si tu as 100 francs, il faut donner. Même si tu as 10 francs, donne. Dieu sait ce que tu as. Mais donne. Amen. Alléluia. Et voyez, ouais, c'est malheureux et c'est triste. Et les gens ne savent pas que c'est l'esprit qui les met dans la pauvreté. Ils demandent, ils font les gens d'honneur, on ne les prend pas. Parce que toi, tu n'es jamais levé pour semer. Toujours tu viens. Quand les gens viennent, quand les gens viennent le culte, frère, donne-moi. J'ai un problème. Tu appelles tes oncles. Tonton. Un jour, ton tonton. Qui peut décrire ta situation, il ne faut pas lui demander d'argent. Prends un jour 1000 francs, débrouille-toi, et puis va lui donner. Dis, tonton, c'est ma participation. Mais ton tonton est multimillionnaire, hein, et puis il vient lui donner 1000 francs. Pendant que lui, c'est toi qui es pauvre. Alléluia! Vous savez, il y a des gestes qui touchent les gens. Si tu veux recevoir, il faut donner. Il ne faut pas demander. Donne-toi-même d'abord. La Bible dit, tu appelles cela la loi de la semence et de la moisson. Il dit, ce que tu vas avoir, il faut le semer. Tu veux avoir de l'argent, c'est de l'argent dans la vie d'autres personnes. Amen. Eux vont te redonner la. Tu vas moissonner. Si tu comprends cela, tu vas acclamer le Seigneur.
Je lis, lisez avec moi, Proverbe chapitre 22, le verset 7. On va lire beaucoup aujourd'hui le livre de Proverbe. Proverbe chapitre 22, verset 7. Dieu dit, le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La Bible dit que le riche domine le pauvre. Autrement dit, parce que celui qui emprunte est toujours l'esclave de celui qui prête. C'est ce que j'ai expliqué, moi, j'enseigne là-dessus, même aux raisons politiques, je leur dis, celui qui emprunte sera toujours dominé par celui qui prête. Tant qu'on empruntera l'argent, ou soi-disant riche, on restera toujours dans le même état. Les gens croient qu'en empruntant, on va sur une autre situation. C'est un verset de la parole. Il dit, tu seras esclave de l'autre. Il va toujours te dominer. Il va t'imposer sa loi. Il va t'imposer. Tu ne connaîtras pas toi-même ta propre destinée. Tu es quelqu'un qui naît et qui subit la vie. Tu es là à cause de donner. Tu n'as plus de personnalité. Les gens te traitent comme un bien. Et tu es devenu comme un esclave. Parce que tu as tous les jours au téléphone. Donne. Et tu arrives, toi quelqu'un de valeur, un enfant de Dieu. Le nom du Seigneur est invoqué sur toi. Mais tu arrives, les gens ne peuvent même pas te regarder en face. Les gens te traitent comme rien. Parce que tu as pris la mentalité de la censure. Je sais que tu n'as pas grand chose. Je sais, mon frère. Mais Dieu dit, et la bonne mentalité, ce que tu es en train de faire ne te fera jamais sortir de la pauvreté. Quitte la mentalité de la censure. Tu n'as pas grand-chose, mais commence à semer. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 30, verset 15. Dieu dit... Alors, j'ai déjà lu ce passage. La sanction du fils, ok. Proverbe 22, 7, ok, c'est bon. Amen. Le deuxième élément qui fait demeurer et qui empêche cette bénédiction-là, de ce groupe, lui. En fait, ce que j'appelle qui empêche, moi, sont les géants. Quels sont les géants auxquels tu es confronté qui t'empêchent d'ouvrir la porte de ta corbeille et ta huche seront bénis? C'est un géant qui te dit, tu n'as pas assez, demande. Tu n'as pas assez, demande. Tu n'as jamais suffisamment, demande. C'est cet esprit-là qui te dit constamment demander. C'est un démon qui te met dans l'esclavage. Tu dois dire, à partir d'aujourd'hui, sur la base de la parole que tu as entendue, je n'ai pas assez, je vais donner. Je n'ai pas assez, je vais donner à celui. Je n'ai pas beaucoup, mais je vais partager, je vais donner. Je vais faire quelque chose. Je vais toujours donner. Je donnerai. Et tu sors du premier esprit qu'on appelle l'esprit de la censure. Le deuxième esprit qui met dans la pauvreté, c'est l'esprit de la paresse. Derrière moi, la paresse. La paresse. Proverbe chapitre 6. Voilà la paresse. Proverbe chapitre 6 à partir du verset 9. Et Dieu dit là, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. La paresse attire la pauvreté. La paresse.
Vous savez, c'est devenu quoi la paresse, non? Tout le monde connaît.
Lisons les autres passages qui parlent de la paresse. Proverbe 19, 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante. L'âme qui est nonchalante éprouve la faim. Donc la paresse, ce qu'elle est dans ta vie, elle empêche la troisième porte de Deutéronome 28, 5 de se réaliser dans ta vie. Si tu es paresseux. Dieu peut même te bénir, mais comme tu es paresseux, ça ne peut pas aller. Et les paresseux sont très souvent des personnes qui trouvent toujours des arguments pour justifier leur paresse. Tu vas rarement voir quelqu'un qui va te dire je suis paresseux. Personne ne reconnaît ce péché-là. On dit non, frère. Dans ce pays-là, il n'y a rien à faire. Donc, il dorme jusqu'à 10 heures. Tu veux dormir jusqu'à 10 heures? Alléluia. Et la nuit, tu vas voir. Il faut travailler. Tu dis non, mais je n'ai rien à faire. Donc, il faut pas dormir. On a toujours quelque chose à faire. Toujours. Réfléchis bien. Comme c'est certain que Dieu va te bénir, commence à prendre des livres et puis à étudier. pendant la période où le bruit n'est pas encore venu. Rends-toi meilleur pour le travail que tu auras bientôt.
Alléluia.
Moi, je vois qu'une femme sait qu'elle va se marier, elle commence à s'apprêter. Elle travaille sa peau, elle travaille sa roue, elle travaille tous les éléments. Elle se travaille parce que le jour de son mariage, elle va être belle. Alors, je crois que quand quelqu'un sait que Dieu va le bénir, il doit se préparer aussi à être béni.
Alléluia.
S'il n'est pas prêt à être béni, imaginez-vous une femme mariée, une femme qui doit se marier, qui ne sait pas préparer au mariage. Vous comprenez? Hein? Voilà. Elle n'est pas partie chez la coiffeuse, elle n'est pas partie faire ses ongles. Tout le monde sera surpris, étonné le jour du mariage. Elle est bizarre.
Amen. Alléluia. Voilà. Cela ne t'arrivera pas, c'est certain. Mais Dieu veut que tu travailles.
Alléluia.
Que tu te prépares. Parce que tu seras béni. Parce que la faveur de Dieu va se manifester pour toi.
Le temps que tu as, le travail commence. Avant que le boulot commence, prépare-toi. Prépare-toi. Parce que quand le boulot va commencer, tu n'auras plus le temps. Tu n'auras plus le temps. Rends-toi meilleur. Deviens excellent dans tous les domaines que tu fais. Profite de la période où le boulot n'a pas commencé. Apprends. As-tu fait une formation VTS secrétariat? Tu n'as pas eu de travaux? Prends le peu d'argent que tu as. Bénis le Seigneur, fais des offrandes à l'église.
Va dans une librairie. Alléluia.
Va dans la librairie, les pas on a des livres.
On a des CD.
Va dans une librairie, achète, lis, documente-toi, travaille, améliore ton niveau. Parce que tu crois que tu vas te donner un trouver un travail. Tout à l'heure, je te dis quelque chose. Les gens peuvent te renvoyer parce que tu n'es pas excellent dans ce que tu fais. Les gens croient que c'est un démon de main sèche ou un sorcier qui est venu du village. Il y a des gens qui se font renvoyer eux-mêmes par leur comportement et leur attitude.
Alléluia.
Mais ça, ce sont des choses qu'il faut dire. Les gens croient que ce sont les sorciers qui les ont attaqués. Quels sorciers? Quels sorciers? C'est vrai, les sorciers existent.
Mais quand même. Alléluia. Alléluia.
Donc la paresse détruit la vie des gens. Et les paresses sont très souvent des excuses. La Bible dit dans le premier chapitre 2, verset 4, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. C'est-à-dire, il fait froid. Dans le froid, la personne doit travailler. Mais s'il si fait froid, que tu trouves que c'est normal qu'il fasse, tout le monde sait qu'il fait froid. Que toi, tu trouves que c'est normal. Et pour ça, tu dors. Mais ne t'attends pas à récolter à la moisson. Ne t'attends pas à récolter. Ce que tu n'as pas semé, ne t'attends pas à être un travailleur excellent. Pendant que, pendant la période où tu n'as pas de boulot, tu ne t'es pas amélioré. Tu ne t'es pas développé. Ne t'inquiète pas quand tu vas arriver, tu vas travailler avec un patron, il va t'insulter, il va se plaindre tout le jour de ton travail. Tu veux subitement arriver avec une notion de Dieu qui va te donner d'être excellent dans ton boulot. Pendant le temps où tu ne faisais pas grand chose, où le travail te donnait pour te préparer, tu t'as donné du temps pour jeûner, prier, te préparer. Tant que tu dormais.
Alléluia. Dis à ton voisin, relève-toi, fortifie-toi. Proverbe chapitre 20, verset 13. Il dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux, tu seras rassasié. N'aime pas le sommeil.
Vous avez tout fait face à la Bible, frère. Si vous voulez marcher dans la parole de Dieu, il ne faut pas aimer le sommeil. Il ne faut pas aimer dormir. Dis
à ton voisin, réveille-toi, mon frère.
Dans la vie, il faut se reposer, il ne faut pas dormir. Il faut se reposer. Tu te couches à 22h, tu te reposes jusqu'à 4h du matin. Tu te récupères. Mais pourquoi tu dors jusqu'à 10h? Pourquoi tu tournes dans ton lit jusqu'à 10h? Il y en a même qui font. Ils ont des grasses matinées toute la semaine. Jusqu'à 11h, ils paraissent. On dit, frère, lève-toi!
Oh, il y a la servante. Elle s'occupe, elle nettoie la maison.
Lève-toi ta maison. Hey, ton mari travaille. Ton mari travaille. Toi, tu dors jusqu'à midi. Hey, la main à la main, tu es là.
Tu sors. Tu allumes la télévision. Mais mon gars, avant de prier déjeuner, ma soeur, faut dormir. Dormir attire la pauvreté.
Vous savez, on a qu'à beau dire, ta corbeille et ta huche seront bénies. Mais la Bible va se contredire.
Si tu dors, Dieu doit te montrer que dormir n'est pas trop bon.
Mais si Dieu ne t'a pas montré ça, c'est que la Bible n'est pas vraie. Donc même si tout est fait pour que tu réussisses, des problèmes vont arriver. Car le diable profitera de cette brèche pour frapper ta vie.
Alléluia!
Lis la femme vertueuse. Il faut le lire, Proverbe 31. Elle se lève très tôt avant tout le monde.
Et elle donne des tâches à ses serviteurs, à ses servantes.
Faites ceci, faites cela, faites ceci.
Femme vertueuse. Alléluia.
Si votre femme n'est pas venue, elle dort jusqu'à 10h. Prenez le CD de l'enseignement, allez lui donner. Si ton mari dort jusqu'à 10 heures, donne-lui. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 24, verset 30. Oh. Il dit, j'ai passé près du champ du paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines qui croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croisé les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme une odeur. Et la disette comme un homme en armes. Proverbe 13, 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Alléluia. Il dit, je suis passé près du champ du paresseux. Le paresseux avait un champ, mais il ne s'occupe pas de son champ. La paresse. Ce qui est important, c'est parce que je veux que vous retenez, en plus de la paresse, que j'ai cité comme deuxième point qui attire la pauvreté, c'est la négligence. Le fait de ne pas bien faire les choses que Dieu vous confie. C'est la négligence. Alléluia. Si on te confie un travail, que tu le fais de façon médiocre, tu attires vers toi la pauvreté. Tu es un menuisier, tu es un ferronnier, tu es un tâcheron. Tu fais les choses simples. Fais-les bien. On dit le paresseux avait un champ, mais il a laissé les épines pousser. Il n'a pas pris soin de cela. La pauvreté l'a attrapé. Quelle que soit la façon dont vous faites votre vie, appelez, tout ce que Dieu vous a donné, apprenez à bien faire. Faites le bien. Faites-le avec beaucoup de sérieux. Ne méprisez pas les petits travaux que les gens vous donnent. En disant, ce n'est pas encore le temps de ma bénédiction. Ce n'est pas vrai. Si tu parles ainsi, ta bénédiction n'arrivera jamais. Si tu es employé quelque part, sois un très bon employé. Travaille bien. Ah, je vous expliquerai dans la suite de l'enseignement. Le principe, entre, la différence entre la soumission et l'obéissance, c'est deux choses différentes. Hein? Alléluia. Il faut obéir au patron. Et puis, il y a ce qu'on appelle la soumission. La soumission vous ouvre les portes. J'expliquerai ça après. Parce que c'est différent de se soumettre et puis obéir, c'est deux choses différentes. Hein? C'est deux choses différentes. Amen. Quand on se soumet, quand la petite femme se soumise à vos maris, les mariés, quand la petite femme se soumise à vos maris, c'est très, très, très puissant. Ça ne veut pas dire obéissez à votre mari. Hein. Mais ce n'est pas de désobéir. La soumission est différente de l'obéissance. Amen. Il y a des femmes qui obéissent à leur mari, mais leur foyer n'avance pas depuis là. Non, Dieu n'a pas dit d'obéir. Il dit qu'il faut te soumettre. C'est deux choses différentes. La soumission est différente de l'obéissance. Il y a des femmes qui obéissent tout ce que le mari dit, elles font. Mais elle dit, pasteur, depuis là, il ne change pas. Quand on dit femme obéissante là, c'est moi-même qui suis là. En la Bible de 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1, il dit, femme, si ton mari n'obéit pas à la parole, ton mari n'obéit pas à la parole du Seigneur, il dit, faut te soumettre. Il dit, par ton attitude, tu vas l'amener à changer. Je vous assure que ce que la Bible appelle la soumission, je vous dis, je dis aux femmes, ça amène tout homme à changer d'attitude. Ouais. La soumission, ce que Dieu appelle la soumission d'une femme, amène tout homme à changer. Mais c'est différent de l'obéissance. Ah, quand tu m'as fait comprendre ça, ça m'a profondément touché. Hein. J'ai dit, quoi? Donc depuis, on a déjà obéi. Mais quand vous obéissez, c'est là même que vous énervez l'individu. Obéissez là. C'est que tu obéis à ton mari, mais c'est comme si tu l'énerves encore. Mais la soumission fait changer le cœur de tout homme. Dans la soumission, il y a un peu l'obéissance. Mais il y a une autre attitude intérieure. Parce que c'est important, même pour les employés, pour les gens qui travaillent dans les entreprises, de comprendre ce que c'est que la soumission. Parce que quand vous êtes soumis, vous allez facilement gravir les échelons dans votre entreprise. Amen. Parce que la soumission est une attitude très, très particulière. Ça nous aidera de façon à avoir une vie stable sur le plan financier, avoir notre corps et notre huche bénie. On parlera de cela prochainement. Amen. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, non? Mais vous n'êtes pas tout d'accord. N'inquiétez pas, il faut nous expliquer en même temps, tout va finir. Alléluia. Donc, la négligence est le fait de mal faire les choses. De ne pas travailler de manière méticuleuse entraîne la pauvreté et la misère. Troisième élément, ceux qui refusent la correction. Proverbe chapitre 13, verset 18 dit, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction.
Mais celui qui a égard à la réprimande sera honoré. Celui qu'on ne peut pas rectifier, qui est trop orgueilleux pour pouvoir se remettre en cause dans ses activités, a-t-il dans sa vie la pauvreté, dit ce passage de Proverbe. Proverbe, le chapitre 13, le verset 4. Vous devez avoir suffisamment d'humilité pour que Dieu vous rectifie chaque fois, pour que les hommes puissent vous parler. Si vous ne l'avez pas, vous allez attirer dans votre vie la pauvreté. Amen. Si vous regardez les entreprises de cellulaire dans le monde, même les entreprises de voitures, elles sont constamment obligées de se corriger, d'améliorer, de créer des voitures ou bien des versions de choses améliorées. Parce que si elles restent à une étape, leur boîte va fermer. Elles vont attirer la pauvreté. Amen. La correction vient améliorer notre vie, de nous apprendre à faire mieux que ce que nous avons fait dans le passé. Celui qui refuse de faire mieux, celui qui refuse de s'améliorer, celui qui refuse la correction, va rester dans la pauvreté. Ou bien va attirer la pauvreté. Je reprends le verset, Proverbe 13, 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Quatrième point. Ne pas avoir un but dans sa vie, c'est-à-dire le manque de vision. Ah, ça, ce sont des choses dont on parle souvent. Proverbe 28, 19. Celui qui quitte son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Vous allez apprendre au travers de cet enseignement que vous allez avoir des focus dans votre vie. Amen. Parce que si vous poursuivez les choses, vous courez derrière les choses inutiles, les choses futiles, ce qu'on appelle des choses vaines, vous allez récolter la pauvreté dans votre vie. C'est quoi les choses vaines? C'est par exemple des gens qui ne passent leur temps qu'à vouloir s'amuser à présenter. Alléluia. Au lieu de travailler, c'est une forme de paresse. Ils vont être là, ils vont aller jouer au ballon jusqu'à... Frère, il y a un temps pour faire le sport. Il y a un temps pour travailler. Ils vont aller regarder la télévision jusqu'à... Il y a un temps pour regarder la télévision. Il y a aussi un temps pour travailler. Ils poursuivent des choses vaines. Si tu agis ainsi, tu attires dans ta vie la pauvreté. La méchanceté attire la pauvreté. Proverbe chapitre 13, verset 25. La Bible dit, le juste mange et satisfait son appétit. Mais le ventre des méchants éprouve la disette. Il ne faut pas être quelqu'un de méchant. C'est quelque chose qui entraîne la pauvreté. Le méchant, c'est lequel? C'est qui? On connaît les méchants qui ne croient pas dans le Seigneur. Mais il y a un type de méchant, je le prends, Proverbe 13, 25. Il y a les méchants, le méchant, je l'ai dit le mardi dernier, ce sont les gens qui aiment critiquer les autres. Quand tu t'assois, tu critiques, tu te considères comme méchant. La Bible dit le méchant imite les autres. Vous voyez, c'est une attitude qui attire la pauvreté. Ça, c'est spirituel. Vous asseyez les gens, tu connais l'autre là? Tu vois, il avait ça hier, toi, c'est bavardage là. Dieu n'aime pas ça. Alléluia! Ça attire la pauvreté. Il faut éviter ça. Vous avez des problèmes dans la vie, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est parce que tu parles beaucoup. Et tu parles, tu veux expliquer, tu parles, tu es dans la vie là, comment dire, tu es affairé. Et tu es au courant de la dernière. Concentre-toi, tu vois, la Bible dit que tu poursuis des choses vaines. Ça, c'est inutile. Concentre-toi sur les choses qui ont de l'avenir. Parce que poursuivre les choses vaines attire la pauvreté. Alléluia! Quand vous allez voir les pays où les gens ont eu la bénédiction financière. Vous allez voir qu'ils ne sont pas affairés. Très souvent, les gens, oui, les gens sont assis en bas de leur immeuble. Tu as vu la coiffure aujourd'hui là? C'est-à-dire, ils parlent. Ils font des commentaires sur tout. Ils connaissent le voisin, quelle heure il est rentré, à quelle heure il est sorti, qu'est-ce qu'il fait. Enfin, ils s'occupent et ils aiment parler. Cette attitude attire la pauvreté. Amen. Allez courir chez leurs camarades. Hé, je vais t'expliquer la dernière affaire. Hé, ma soeur, il y a affaire, oh. Mon camarade, de temps en temps, il faut causer pour se libérer un peu. Mais, en faire un travail, ça attire la pauvreté. Tu es en train de poursuivre des choses vaines, ma soeur. Concentre-toi sur l'essentiel. Tu perds du temps. Allez passer. Vous savez, dans la vie, là, on n'a pas beaucoup de temps. Hein? La journée nous donne 24 heures. Et le souvent, on a tout le monde. Dieu a donné une richesse à tout le monde qui est équitable. C'est le temps, 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Les plus riches ont 24 heures de vie, de temps dans la journée. Les plus pauvres ont 24 heures. Qui n'a pas 24 heures? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 26 heures dans la journée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 13 heures dans la journée? Sauf le paresseux qui dort trop. Alléluia. Amen. Nous avons tous 24 heures. Il n'y a pas de combine, de discrimination vis-à-vis du temps. Tout est une affaire de comment tu gères ton temps. Aller parler une heure de temps avec quelqu'un pour ne rien dire, c'est une heure de perdu dans ta vie. Parce que tu ne pourras jamais rattraper cela. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut calculer ton temps. Les gens qui font perdre le temps, il ne faut pas trop les fréquenter. Il faut les saluer de temps en temps pour les faire rire. Frère, ça va dans la vie. Mais quelqu'un qui vient chez toi,
il passe son temps à bavarder. Toi, il prend. Ah, on a 24 heures. Il te fait moins 3 heures. Tu as dormi 8 heures de temps. Il t'a fait moins 3 heures pour ne rien dire de bon. Tu es au courant. Les gens sont allés ici. Mais le temps, tu peux le rattraper. 3 heures de temps, tu aurais pris ça pour prier. Ça t'aurait fait grandir dans ta foi. 3 heures de temps, tu aurais investi dans un travail. Ça t'aurait fait avancer. Faites attention.
Amen. Il faut fuir les gaspillages de ton temps. Amen. Alors, les paroles en l'air. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Mais la parole en l'air amène qu'à la disette. C'est ce que je suis en train de dire. La parole en l'air amène à la disette. La précipitation, ceux qui sont trop pressés, qui ne sont pas patients, ça attire la pauvreté. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc l'impatience aussi entraîne la pauvreté. La convoitise entraîne la pauvreté. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Quelqu'un qui est envieux, la convoitise, entraîne aussi la disette. Amen. Par la table du Seigneur, on va s'arrêter là.
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.